chers auditeurs. Au micro, Paul Ouzi Meyerson, qui a le plaisir de vous présenter Chronique pour la paix, une nouvelle émission sur Radio Shalom. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation globale qui prévaut en Israël. Une situation que le pays connaît bien, hélas, pour l'avoir souvent vécue. Celle d'une crise gouvernementale sur fond d'attentats terroristes meurtriers. Mais avant de questionner notre invité, nous aurons une pensée affligée pour les victimes de ces attaques sanglantes. À ce jour, 14 personnes, dont 12 Israéliens, y ont perdu la vie. Maintenant, je vais demander à Marco Sarabia de nous donner son avis sur la situation politique qui redevient délicate. Marco Sarabia est membre de l'Assemblée du Parti travailliste israélien depuis de nombreuses années. Il a été un des animateurs du mouvement social contre Netanyahou, dit de Balfour. Shalom Marco Sarabia, vous m'entendez ?
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs et les auditrices de France. Bonjour Paul.
Salut, alors c'est très sympa. Marco Sarabia, le dernier attentat à Tel Aviv, le quatrième en deux semaines, remet au premier plan la situation sécuritaire. Dites-nous, est-ce qu'il y a un rapport entre ces attentats et le sommet qui s'est tenu récemment à Sdeboker, en Israël, entre les pays signataires des accords d'Abraham, avec la participation de l'Égypte et des États-Unis? Est-ce qu'il y a un rapport entre les attentats, croyez-vous, et puis cette rencontre importante? Et pour la paix, bien sûr.
C'est une analyse, mais je ne suis pas très sûr que ce soit la bonne raison, et enfin ou la mauvaise raison de cette recrudescence des attentats. Et il ne faut pas oublier que le premier attentat a eu lieu à Beersheba et a été commis par un bédouin israélien seul. Alors justement, dans la société bédouine, il y a beaucoup beaucoup de problèmes sociaux. Il y a du banditisme aussi. Il y a et énormément d'armes illégales qui sont en cours, qui sont en usage. Et le gouvernement, et en particulier le ministre de la police, Monsieur Omer Bar-Lev, a décidé de s'attaquer justement à cette délinquance qui vraiment a empoisonné la vie du Negev et des alentours de Beersheba. Et il a pour cela fait beaucoup de descentes de police, supprimé des centaines de milliers d'armes, dont parmi des armes qui venaient de Tsahal, en fait, qui ont été volées dans les bases. Voilà. Alors, ce grand banditisme a été attaqué, pris de front, et c'est peut-être ce premier attentat, en tout cas, c'est quelqu'un qui n'avait pas vraiment de lien avec les Palestiniens, c'est un bédouin, et je pense que ça a été une initiative isolée et qui est liée justement à cette tentative de mise en ordre de la situation. Mais ensuite, les autres attentats, il se peut, comme ça avait été le cas dans l'intifada, et ça fait boule de neige un peu chez les Palestiniens et chez les Arabes israéliens, comme si c'était un exemple à suivre pour certains extrémistes. Et je ne pense pas que ça... il y a eu donc certains des attentats qui étaient commis par des Arabes israéliens et d'autres par des Palestiniens.
Et djihad islamique, je crois.
Oui, mais ça n'est pas, à mon avis, quelque chose de concerté ou de préparé. C'est simplement que ça fait boule de neige et l'un influence l'autre. C'est mon avis et je pense que c'est partagé par certains experts. Et il faut voir la suite. Pour le moment, le gouvernement a réagi avec énormément d'actions en Judée-Samarie et aussi parmi les Arabes israéliens. Il y a quelques extrémistes. Ça ne représente pas, je le dis encore une fois, l'esprit des Arabes israéliens qui, pour la plupart, sont des citoyens qui respectent la loi et qui aiment leur pays.
D'accord. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu un policier qui était un arabe chrétien israélien.
C'est ça. Un des héros, justement, de l'attentat de Bnei Brak, ça a été
Il n'empêche, Marco Sarabia, que cette poussée terroriste survient à un moment, à un mauvais moment. C'est le moment où il y a la première crise politique qui met en péril l'avenir du gouvernement élu, il y a à peine un an qu'il a été élu.
Pouvez-vous
nous expliquer, Marco Sarabia, la nature de cette crise? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui le gouvernement Bennett-Lapid passe de majoritaire à minoritaire? Qu'est-ce qui s'est passé là?
Alors, d'abord, il faut, sur 120 députés, ce gouvernement bénéficie d'un soutien ouvert de 61 députés.
D'accord.
Et plus l'accord tacite pour certaines lois de la liste arabe. Donc, jusqu'à présent, il jouissait d'une certaine liberté de manœuvre, et c'est ce qui a permis de faire passer le budget pour 2 ans, ce qui a permis de faire avancer certains projets, notamment dans les transports publics, ou alors même des projets de l'écologie, que pour la première fois on parle d'écologie en Israël. Peut-être ça paraît pour vous, ça va en France, ça paraît normal, mais ici en Israël c'est une révolution. Ce gouvernement aussi, comme je l'ai dit, a décidé de s'attaquer à la délinquance arabe, d'essayer de mettre de l'ordre en Israël sur beaucoup de projets qui ont été complètement négligés, c'est par exemple la cherté de la vie, le logement, et donc ce budget est venu comme une manne, parce qu'il n'y avait pas de budget pendant 2 ans et 3 ans en Israël. Donc il y avait certaines anarchie et justement les affaires courantes étaient expédiées. Donc je pense que le gouvernement est en plein élan et beaucoup de choses sont faites. Il y a eu la désertion d'une députée qui a subi énormément une députée de Yemina, c'est-à-dire le parti de Nathalie Bennett. Yemina, oui, c'est ça, la nationaliste religieux, mais modéré. Mm-hmm. C'est pas comme les nationalistes religieux de l'extrême droite, de Smotrich et de Ben Gvir, qui sont carrément à l'extrême droite et qui sont vraiment dangereux, à mon avis. Par contre, le gouvernement de Yemina, le parti de Nathalie Bennett, Yemina, est un parti relativement modéré du sionisme religieux, et il avait quand même le soutien d'une partie du peuple. Seulement, l'opposition est en train de faire des pressions énormes sur les membres de ce parti, justement, et jusqu'au harcèlement personnel de certains députés. Et cette députée a craqué, en fait, parce qu'elle a été vraiment menacée. Et puis, ils l'ont traitée de tous les noms. Voilà, tu mets en danger l'État, tu trahis tes électeurs. Et toute la propagande du Likoud, dont ils savent très bien faire, et qu'ils ont fait ça depuis 20 ans, pour délégitimer toute action de ce gouvernement. Alors tout est permis, tous les coups étaient permis, et en particulier celui-là. Alors,
elle est passée où, cette députée, alors?
Eh bien, elle reste entre deux pour le moment, elle démissionne de la coalition.
Elle n'est pas Likoud, alors, encore?
Non, elle n'est pas Likoud. Ils lui ont promis, évidemment, monts et merveilles. Mmh. Monts et merveilles pour qu'elle puisse déserter. Mais pour le moment, elle est en position d'attente. Donc, c'est pas sûr qu'elle ait le pouvoir de faire tomber ce gouvernement. Ce gouvernement a 60 députés pour le moment, et plus le soutien tacite de la liste arabe. Mais c'est pas sûr. Même la liste arabe a émis des réserves sur le gouvernement, mais ils n'ont pas non plus envie de voir revenir la droite nationaliste
et
Netanyahou. Donc je pense que pour le moment, le gouvernement va continuer. Il aura moins de marge de manœuvre pour faire passer certaines lois, pour faire passer des réformes. Et je pense que tout le monde va se mettre en veilleuse. Mais c'est ce qui fait aussi la beauté de ce gouvernement, c'est que ça n'est pas un gouvernement monolithique comme il y a eu, c'est-à-dire avec une seule pensée, un seul maître à penser, et tout le monde s'écrase et suit derrière le leader. Ici, c'est un gouvernement de plusieurs petits partis, et il y a beaucoup de dialogues. Ce que certains journalistes présentent comme une crise du gouvernemental dès qu'il y a une petite réserve mise par un parti, c'est en fait un dialogue d'idées, un dialogue entre des parties qui n'avaient rien à voir jusqu'à présent l'un avec l'autre. Et donc, et je trouve que c'est une bénédiction pour Israël, ce gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a des partis de droite, des partis de centre, des partis de gauche, des Arabes, la liste islamique de Ram. Et je pense que c'est tout d'un coup, on voit toute la...
Vous respirez mieux,
la variété de courants, la variété de pensées. Et jusqu'à présent, même ce budget, c'est un dénominateur commun, c'est un consensus national. Et par exemple, personne ne s'oppose à la lutte contre la vie chère, par exemple.
Mais Marco Sarabia, est-ce que vous n'avez pas peur quand même que l'extrême droite, au moins, exploite un peu cette vague de terrorisme pour déstabiliser le gouvernement Bennett-Lapid, et s'il y a des prochaines élections, qu'est-ce qui pourrait en sortir ?
D'abord, je ne pense pas qu'il y ait de prochaines élections, et ça ne profiterait à personne, ça ne ferait que faire revenir au chaos et à l'instabilité politique qu'il y a eu depuis ces deux dernières années. Et donc, je pense que personne n'a intérêt aux élections pour le moment. Il n'y a que le Likoud qui gagnerait un peu. Et encore, tant que M. Netanyahou est au pouvoir, je rappelle qu'il est accusé de corruption et de fraude et d'abus de confiance. Et il surmonte un procès très, très, très compliqué en ce moment où il risque la prison. Donc, tant que Netanyahou est à la tête du Likoud, il n'y aura pas de gouvernement avec le Likoud. Donc je pense que même au Likoud, ils comprennent que peut-être c'est pas le moment pour des élections, parce qu'ils n'arriveront pas à former un gouvernement non plus.
Pourquoi vous dites qu'ils n'arriveraient pas à former un gouvernement ? Netanyahou, il a déjà bien, je crois qu'il est très très expert pour monter des gouvernements, créer des alliances. Vous craignez pas qu'on revienne à un climat un peu comme il y avait la guerre civile un petit peu avant les dernières élections là ?
Mais il y a eu quatre élections en l'espace de 2 ans. Et pendant ces 4 élections, M. Netanyahou n'a pas vraiment réussi à monter un gouvernement. Le gouvernement qui est le dernier gouvernement, qu'il a enfin réussi à monter avec Benny Gantz, il a tenu quelques mois. Et un an, même pas un an. Donc, il n'a même pas réussi à faire passer un budget.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en fait, ça fait quatre campagnes électorales où on peut dire que malgré le beau score du Likoud, il n'a pas vraiment réussi à faire avancer quoi que ce soit. On était en campagne électorale continuelle, en fait.
D'accord. Alors, je voudrais vous poser une question rapidement, Marco Sarabia, parce que là, on va bientôt terminer, hein, le quart d'heure est passé. Mais est-ce que la guerre de Poutine contre l'Ukraine fait débat en Israël ? Est-ce que les positions du gouvernement vis-à-vis de l'Ukraine, qui sont relativement modérées, vis-à-vis des Russes en particulier, est-ce que ça fait débat ou est-ce que bon, c'est pas vraiment central dans la vie politique actuellement ?
Je pense que tous les experts en sécurité nationale sont d'accord et que ce n'est pas l'intérêt d'Israël de condamner la Russie, et parce que la Russie, en fait, est à nos portes, en fait, en Syrie, au Liban,
oui, mais c'est pas la première fois qu'elle est à nos portes. Elle a toujours été à nos portes. Elle est en Syrie, elle était en Égypte, en 73, en 67. On a ramené des dizaines, des centaines de conseillers russes. On les a renvoyés dans les bateaux, je m'en souviens. Donc, pourquoi on a peur de la Russie ?
Alors justement, mais c'est parce qu'on a l'intérêt d'Israël, c'est de conserver de bonnes relations avec la Russie. Elle nous a permis de bombarder les Hezbollah librement sur la terre syrienne. Elle nous a permis de réagir, de nous protéger en fermant les yeux sur toute présence iranienne à nos frontières, aussi bien au Liban qu'en Syrie. Donc c'est l'intérêt d'Israël. Je pense qu'il y a un consensus national là-dessus, que Bennett a eu une position très très modérée, et même il a essayé d'être un intermédiaire justement entre l'Ukraine et la Russie. Je pense que c'était la bonne position à suivre suivre. La guerre, évidemment, peut-être je sais que c'est très compliqué, hein, c'est-à-dire on ne sait pas qui est vraiment coupable de cette guerre, mais
c'est les Russes.
Guerre, justement, alors, une guerre aussi, que, en sachant que les Russes allaient ouvrir la guerre, peut-être il y avait aussi des efforts à faire en amont, bien avant. C'est-à-dire que ça n'est pas venu du jour au lendemain, cette crise, et que toute la communauté internationale aussi doit se poser des questions. Est-ce qu'on l'a pas vu venir, cette guerre? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour l'empêcher?
D'accord.
Que pour la prochaine fois, je pense que la diplomatie a échoué complètement. Donc, je crois que justement la position d'Israël a été très modérée, mais il faut regarder aussi l'intérêt d'Israël toujours.
Merci beaucoup Marco Sarabia d'avoir répondu et d'avoir participé à notre émission. Le temps est passé là.
Oui.
Et je souhaite un Pessah Sameach à tous et à tous nos auditeurs. C'était Paul Ouzimi, Yersin à l'antenne avec Chronique pour la paix. À dans 15 jours.
Eh bien, bonne fête et Chag Sameach
pour tous
les auditeurs. Au revoir.
Au revoir.